Bonjour, je m'appelle Bertrand, j'ai 32 ans. Si je vous appelle, c'est parce que je culpabilise beaucoup et je me confiais en fait, je veux vider mon sac. Voilà, Cécilia Sarkozy a quitté le président pour moi et je culpabilise énormément. Voilà, je voulais en parler à quelqu'un maintenant, vous le savez, voilà. J'espère que j'irai mieux. Au revoir.
Bonjour à tous, j'ai eu une idée lumineuse. Je connais quelqu'un qui pourrait très bien remplacer Cécilia Sarkozy. Si on proposait Ségolène, ça ferait une belle paire ces deux-là, hein ?
Minuit est passé depuis 20 minutes. On est donc le 18 octobre 2007, ce qui signifie que le 17 octobre est terminé, et avec lui, la journée du refus de la misère. Alors moi, voyez, je respecte les coutumes de la société à laquelle j'appartiens. Je fête Noël à Noël. J'assiste au feu d'artifice du 14 juillet. Et hier, par exemple, le 17 octobre, j'ai scrupuleusement respecté la journée du refus de la misère. J'ai royalement expédié un chèque de 1000 euros à la Fondation Emmaüs et un autre de la même somme au Resto du Cœur. Et pourtant, je suis le patron et principal actionnaire d'une très grosse entreprise qui essaime sur plusieurs sites en France et à l'étranger. Je possède aussi, comme vous pouvez vous en douter, un très gros portefeuille d'actions. Eh bien, j'ai refusé d'empocher des dividendes en ce 17 octobre. La journée du refus de la misère est pour moi, en bon républicain que je suis, un jour sacré. En revanche, ce 18 octobre, je vais faire annoncer par le directeur régional aux 580 salariés qui travaillent dans une des filiales de mon entreprise que j'ai décidé de fermer le site sur lequel ils sont employés. Je délocalise en Chine. Loi du marché l'oblige. Mais voyez-vous, j'aurais trouvé tout à fait indécent de leur annoncer ça le 17 octobre. J'ai des principes. Et la journée du refus de la misère, c'est sacré. Mais voilà, depuis minuit, elle est passée.
Eh bien, ça y est, notre petit père du peuple, Saint-Nicolas d'ailleurs, il est allé parler avec le bon docteur Kouchner à Lisbonne. Hein. Et il est allé parler pourquoi ? Après avoir divorcé, il est allé dire oui. Il est allé dire oui à l'Europe. Il a marié la France avec la belle Europe marchande. Par contre, il a dit non à l'Europe sociale. On croirait que l'UMP et le PS, c'est la même chose. Peut-être que ça s'appellera l'UMPS dans pas longtemps. C'était bien le PS qui voulait qu'on vote oui à la Constitution. Allez, ciao.
Oui, bonjour Daniel. Ici, c'est Michael de Auriol. Je voudrais réagir au sujet de grève des cheminots. Et il est temps de privatiser les chemins de fer français. Parce que ça ne va pas. Et à l'heure où on va envahir et se faire manger par les Chinois, et nous devenons un peu paresseux. Et donc il faut un peu plus de travail et cotiser comme le secteur privé, 40 ans comme tout le monde, voilà. Hein. Donc mais réfléchissez les cheminots et c'est fini pour vous, quoi. Régime spécial. Merci, au revoir.
Oui, bonjour Dominique Agathe de Rhône-Alpes. J'ai adoré, et ça il faut vous le repassiez, la réponse de Panafieux quand elle dit que par rapport à la dette énorme en France, il faut que certains régimes spéciaux se sacrifient. Et quand il lui pose la question de savoir pour les retraites des députés, elle ne dit plus rien. Mais c'est génial, cette phrase est géniale, il faudrait la mettre en tête d'émission, parce que là, j'avoue que c'est superbe. La Panafiole a été grandiose, magnifique, extraordinaire. Continuez, je me marre. Ciao, à la prochaine.
Salut Daniel, salut toute l'équipe. Toutes mes félicitations à ta journaliste. Là. Enfin, elle a piégé la mère Panafieux, c'est ça, ouais. Elle a piégé, mais j'étais écroulé de rire. Ah là, vraiment, mais écroulé de rire. Alors, moi, je ne sais pas comment vous faites pour trouver des cons pareils. Enfin, je sais pas, moi, je sais pas, je dois... Enfin bon, évidemment, je suis dans un trou un peu perdu, mais enfin, j'ai beau regarder, on en voit, évidemment, mais enfin, quand même, à ce point-là. Alors, je sais pas, moi, s'ils veulent venir faire un tour dans notre repère, histoire qu'on rigole un coup, quoi, hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que vous qui rigoliez, si on peut les voir en vrai, quoi, voilà, une fois, si tu peux leur communiquer nos coordonnées, ce serait sympa. Voilà, merci, et puis, bon courage à tous, voilà. Amitié.
Bonjour, c'est Yolande, je suis professeure et je vais vous dire pourquoi je ne lirai pas la lettre de Guy Moquet aujourd'hui. Ma grand-mère, médaillée de la Résistance, est enterrée dans un petit village qui s'appelle Antonne, près de Périgueux. Quand il y a eu l'anniversaire du débarquement et de la fin de la guerre, j'ai écrit au maire de cette petite commune, Antonne, pour demander qu'on dépose une fleur, un bouquet de fleurs sur sa tombe. Il ne m'a même pas répondu, il a rien fait. Alors moi j'en ai marre des petits discours à l'esbrouf, parce que finalement ma grand-mère, elle a même pas droit au respect qui lui est dû en tant que résistante. Voilà, je voulais que les gens le sachent, et je voulais citer ce village qui se fiche pas mal de Guy Moquet et du reste. Voilà. Moi, je veux pas faire semblant de faire quelque chose auquel j'adhère pas. Merci.
Cynisme, mépris, mégalomanie ou stupidité, on s'interroge sur le répondeur de la base du suit au sujet de la décision du nouveau président de notre République de faire lire chaque 22 octobre la lettre d'adieu de Guy Moquet dans toutes les écoles de France. Cynisme, mépris, mégalomanie ou stupidité, récupération obscène, racolage indigne, pornographie mémorielle, corruption morale, instrumentalisation, révisionnisme. Jusqu'où iront les conseillers en communication du nouveau pouvoir? On s'interroge sur le répondeur, de là-bas si j'y suis. On se souvient, le 16 mai, la première décision du nouveau président qui écrase une larme à la lecture de la lettre à la cascade de Boulogne. Le 7 septembre, Bernard Laporte qui fait lire la lettre aux joueurs du 15 de France avant le match France-Argentine, on s'interroge sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Combien de temps encore les paillettes, les bidons, les pipeaux et les people? Henri Guénaud, par exemple, Malraux de Sarko, qui accuse les enseignants de prendre les élèves en otage. On s'interroge sur le répondeur de là-bas si j'y suis, voleur de mémoire, violeur de l'histoire. Ça chauffe pas mal. Alors aujourd'hui, on va revenir un petit peu en arrière, dans la mémoire de là-bas si j'y suis. En septembre 2003, nous vous présentions deux émissions au sujet des lettres des fusillés. Un très beau livre était sorti à cette époque-là, j'espère qu'il est toujours en vente, que vous pourrez le trouver, qui s'intitulait « La vie à en mourir, lettres de fusillés de 1941-1944 », présenté sous la direction de Guy Krivopisko. Toute une série de lettres aux éditions Talendier. Il se trouve bien sûr que parmi les lettres, il y avait celle de Guy Moquet, mais d'autres aussi, d'autres de ces hommes et de ces femmes qui ont donné leur vie pour notre liberté, pour le fait que je parle comme je le fais actuellement, et à qui évidemment nous avions rendu hommage. Mais c'était, je crois, sur un autre ton, et c'était sur avec un autre regard, parce qu'on aurait pu lire un autre poème de Guy Moquet, non pas la lettre, la dernière lettre qu'il a envoyée, mais un poème confisqué le jour de son arrestation et qui s'intitulait ce poème « Tuer le capitalisme ». Et Guy Moquet écrivait ceci « Parmi ceux qui sont en prison se trouvent nos trois camarades » il écrivait « camarades » et non « compagnons » Monsieur Guénaud « trois camarades, Berceli, Planquette et Simon qui vont passer des jours maussades. Vous êtes tous trois enfermés, mais patience, prenez courage, vous serez bientôt libérés par tous vos frères d'esclavage. Les traîtres de notre pays, ces agents du capitalisme, nous les chasserons hors d'ici pour instaurer le socialisme. Mais, main dans la main, révolution, pour que vainque le communisme, pour vous sortir de la prison, pour tuer le capitalisme. » C'est la lettre qui n'a pas été lue. Et nous allons en entendre d'autres, donc, aujourd'hui, dans ce numéro de Là-bas, si j'y suis. Auparavant, d'autres messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de Là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Et puis, on ira faire un tour aussi dans une manif qui avait lieu à Paris ce samedi dernier.
Eh oui, bonjour Daniel. Eh oui, le franc CFA. Le franc CFA que nous disons, le franc des colonies françaises d'Afrique, ça va être encore dévalué encore. C'était dévalué les années 70, les années 90, 70, 90 par Balladur, et ça va être encore dévalué encore. Nous sommes très inquiets. Tu sais, Daniel, la Méditerranée charrie le corps des Africains par la pauvreté. Ou alors, on trouve le cadavre des Africains dans le désert. Tout ça, ce n'est pas suffisant. On trouve toujours que l'Afrique est déjà trop riche. Donc, on organise encore une dévaluation. Pour cela, nous allons organiser une conférence à Marseille le 27 octobre à partir de 14h à la faculté Saint-Charles. Nous invitons beaucoup de Marseillais et tous ceux qui sont dans l'environ pour cette conférence débat à Marseille. Rendez-vous samedi prochain, le 27 octobre, à partir de 14h à la faculté Saint-Charles pour cette conférence sur le franc CFA. Et oui, Sarkozy nous réserve toujours des surprises désagréables, surtout pour les opprimés, surtout pour cette pauvre Afrique. Et merci Daniel, merci de passer ce message d'invitation. Merci pour l'Afrique. C'est ça, c'est cela que nous attendons comme aide. Ce n'est pas le sac de riz de Bernard Kouchner qui va sauver l'Afrique. C'est soutien politique que les Africains ont besoin de vous. Merci Daniel. À bientôt. Ciao.
Oui, bonjour, petit répondeur de Là-bas si j'y suis, c'est Isabelle et Patrice de Courmont-Péral. Donc on voulait juste féliciter toute l'équipe pour l'émission de vendredi qui était aussi drôle que triste. Et voilà, on avait un petit commentaire à faire juste pour nos chers patrons à la prochaine fête, pour l'année prochaine, la fête J'aime ma boîte, vous pouvez enlever le haut, ça sera un petit peu plus proche de la réalité. Voilà, à bientôt.
Un petit mot d'humeur que j'avais envie de laisser comme message. Peut-être une lettre, on pourrait intituler « Monsieur le Président, je vous fais une lettre ». Hommage à Guy Moquet. Emprisonné, arrêté, torturé, fusillé à Chateaubriand le 22 octobre 41 à l'âge de 17 ans par les nazis après avoir été désigné avec 26 autres compagnons comme otage par le ministre de l'Intérieur de la France de Vichy dirigé par Pétain, Pierre Pucheux. Arrêté, emprisonné, fusillé, torturé à l'âge de 17 ans parce qu'il était résistant, parce qu'il était le fils du député communiste de Paris, Prosper Moquet, parce qu'il était député et parce qu'il était communiste lui-même, parce qu'il avait organisé dans le 17e arrondissement les jeunesses communistes clandestines, parce qu'il combattait l'oppression et l'horreur nazie, parce qu'il voulait la liberté et le respect des droits de l'homme. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, écrivait Rimbaud. Vraiment. Guy Moquet n'avait pas choisi de donner sa vie à la France, on la lui a volée, affirmait Louis Aragon en 42. Et la commémoration d'un fait historique, est-ce qu'elle est sérieuse quand on la sort de son contexte et qu'on en occulte le sens? L'histoire, c'est comprendre d'où on vient pour préparer les routes de demain. Commémorer l'histoire, c'est se souvenir de ces chemins-là qui sont parcourus. Le juste combat de l'armée des ombres est un des fondements de notre mémoire collective. Ce combat ne saurait être réduit à la lecture de la lettre de Guy Moquet. Les idéaux des résistants sauraient être oubliés, effacés, sacrifiés. La résistance ne saurait être récupérée à des fins qui n'avouent pas leur nom. Quel est le sens de l'histoire? Quel est le sens de l'exécution du jeune résistant communiste Guy Moquet? En tout cas, certainement pas de faire des symboles vides de sens, sans conscience. Le dessin tragique de Guy Moquet saurait être instrumentalisé. On ne peut pas jouer avec certains combats et certaines valeurs. Un minimum de respect s'impose. Voilà, Monsieur le Président, je suis prof d'histoire. J'afficherai ma lettre dès demain dans mon collège. Salut Daniel, continue. Au revoir.
Jeudi 18 octobre, un bébé de 3 semaines et ses parents ont été arrêtés et placés au centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande. Mercredi 10 octobre, un enfant handicapé moteur et mental et ses parents ont été arrêtés et placés au centre de rétention administrative de Toulouse Cornebarieux, jeudi 4 octobre, une petite fille de 3 ans et sa mère ont été placées au centre de rétention administrative de Lyon-Saint-Exupéry. Jeudi 4 octobre, une jeune femme enceinte a été arrêtée et placée au centre de rétention administrative de Cayenne-Rochambeau, en Guyane. Après avoir été transférée en urgence à l'hôpital, elle a accouché d'un fœtus mort. Jeudi 4 octobre, une petite fille de 15 mois et sa mère enceinte ont été arrêtés et placés au centre de rétention administrative de Toulouse-Cornebarieux. La mère perdra ses jumeaux le lendemain. Voilà des pêches et des précisions données par la CIMADE qui expliquent sans doute pourquoi il y a eu des manifestations ce samedi après-midi à l'appel de plusieurs associations de défense des sans-papiers. Il y a eu des défilés un peu partout, dont à Paris, entre Belleville et le Palais-Royal. 4000 personnes manifestaient selon la préfecture de police de Paris. Pascal Pascariello était dans cette manifestation et elle a interrogé plusieurs participants à cette manifestation, dont l'anthropologue Emmanuel Terray.
Bien, je manifeste contre l'ensemble de la loi Hortefeux, contre l'amendement ADN bien sûr, mais contre l'ensemble de cette loi qui porte une atteinte extrêmement grave un droit qui est le droit de tout être humain et qui est reconnu par les textes internationaux, qui est le droit à vivre en famille. La loi Hortefeux consiste à cumuler les barrages et les obstacles pour tous ceux qui veulent faire vivre leur famille et amener leur famille avec eux. C'est complètement inacceptable. Bon, elle n'est pas encore complètement passée puisque reste l'étape du Conseil constitutionnel. Si par malheur elle est validée, il faudra voir comment nous pouvons mettre en échec son application.
Et qu'est-ce que vous pensez justement, parallèlement à ces lois qui sont prises au fur et à mesure par ce gouvernement, de la lecture de la lettre de Guy Môquet ?
Oh ben, je trouve qu'il y a une part d'arnaque considérable. Je veux dire, Guy Môquet était un jeune communiste. C'est en tant que tel qu'il a été fusillé. Il a été désigné par le gouvernement de Vichy comme otage. Et comme otage pouvant être fusillé. Je veux dire, les idéaux de Guy Môquet sont complètement le contraire de ce que le régime Sarkozy nous propose. Alors c'est vraiment une usurpation et une arnaque qui me fait mal au cœur. La politique actuelle du gouvernement, elle vise à mon avis à déstabiliser non seulement les sans-papiers, mais cette fois-ci l'immigration légale. Parce qu'en multipliant les barrages au regroupement familial, c'est bien entendu l'immigration légale qui est visée cette fois-ci. Et ça veut dire qu'en réalité, on cherche à revenir à la situation qui était celle des années 60. C'est-à-dire l'idée, un immigré, on le prend tout seul, il a le droit uniquement de travailler si on a besoin de lui, et on le renvoie quand on n'a plus besoin de lui. Ben ça, c'est une politique qui, même dans les années 60, n'a pas fonctionné, qui ne fonctionnera pas davantage aujourd'hui. Je veux dire, non seulement elle porte gravement atteinte aux droits et à la dignité des personnes, mais en plus elle est absurde. Quand on nous dit on va distinguer l'immigration de travail et l'immigration familiale, c'est absurde. Parce que quelqu'un qui vient travailler, il n'a rien de plus pressé que faire venir sa famille, et quelqu'un qui vient au titre familial, il n'est pas plutôt débarqué, comme il faut bien qu'il vive, il va chercher du travail. De sorte que les deux immigrations se confondent. Tout ça repose à la fois sur des erreurs et des ignorances profondes en ce qui concerne la réalité des migrations, et puis sur une politique dont on finit par se demander si le but principal, ça n'est pas de draguer les électeurs du Front National.
Aujourd'hui, je suis venu manifester contre deux choses. D'abord contre la loi Hortefeux, parce qu'elle me semble absolument inacceptable, parce qu'elle réduit les immigrés à l'état de marchandises qui doivent renoncer à leurs droits fondamentaux, et notamment celui de vivre en famille. Et d'autre part, je suis venu contre le délit de solidarité, parce qu'un de mes collègues, Florimond Guimard, passe en jugement le 22 pour avoir participé à une manifestation contre l'expulsion d'un parent d'élève. Et je trouve que cette façon de criminaliser la solidarité n'est absolument pas acceptable. Moi, je suis enseignant, je suis professeur d'histoire-géographie dans l'Académie de Créteil, au Kremlin-Bicêtre. Et en tant que professeur d'histoire, d'ailleurs, Je note que le 22, c'est aussi le jour où on va voir les ministres tortiller du popotin devant la lecture de la lettre de Guy Mocquet que le gouvernement veut instrumentaliser. Là, je dois dire que c'est une deuxième façon de prendre en otage Guy Mocquet, et c'est une façon aussi d'enfermer la résistance au musée. Alors que la résistance, c'est tous les jours et c'est encore aujourd'hui. La résistance, c'est entre autres Florimond Guimard, lorsqu'il trouve qu'il est inacceptable qu'un parent d'élève soit expulsé et qu'une famille soit broyée. La résistance, c'est aussi ce que veut mettre en pièce Denis Kessler, l'ancien numéro 2 du MEDEF, lorsqu'il a dit que la logique des politiques du gouvernement, c'était de défaire un à un tous les éléments du programme du Conseil national de la résistance. Alors oui, la résistance, elle est encore d'actualité, mais certainement pas du côté du gouvernement.
Et expliquez-moi, vous, en tant que prof d'histoire, qu'est-ce que vous allez faire de cette lettre lundi ?
Je ne vais pas lire la lettre de Guy Mocquet, mais j'expliquerai aux élèves que le sens de la résistance. Je les ferai travailler également sur une autre lettre, celle de Manouchian, Michael Manouchian, qui était à la tête d'un réseau de résistance des FTP-MOI, donc la main-d'œuvre immigrée. Je leur montrerai que la résistance est universelle et qu'elle n'a rien à voir avec l'identité nationale. La résistance, elle est internationale, elle est par nature internationaliste, elle ne se laisse pas enfermer dans une pensée cocardière. Et donc cette façon de décontextualiser la lettre de Guy Mocquet, c'est une opération vulgaire de récupération et d'embaumement de la résistance. Alors que la résistance n'est intéressante que si elle est vivante, et elle est encore vivante aujourd'hui.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben si j'y suis, la vie à en mourir. Résister se conjugue au présent. Flight number 2, arriving from New
York. Nous ensemble. Faisons de la butte. Le 26 septembre 1943. Parents chéris. Je ne sais plus que penser. Je sais que je vais te fusiller. Je suis courageux. Mais je n'aurais pas cru que ma vie finirait aussi brutalement. Qu'allez-vous devenir? Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Jamais je n'aurais cru qu'une faute si peu grave était passible de la peine de mort. Ma vie aurait été bien courte. Elle a été heureuse. Elle aurait pu devenir merveilleuse après cette guerre. Mais non, encore non. Je ne peux croire que je vais mourir. Mes chéris, je vous serre dans mes bras. Je vous embrasse de tout mon cœur. Jean Grappin.
Métro. Avenue, impasse, chaque jour, leurs noms sont mille fois sur les lèvres du chauffeur de taxi, de l'écolier, du sans-papier qui se balade avec un papier où il est écrit Guy Mocquet, avenue Gabriel Péri, avenue d'Estienne d'Orve. Un sans-papier avec son nom difficile à prononcer, comme ceux de l'affiche rouge 23 qui criait la France en s'abattant. Mais que nous disent ces noms aujourd'hui sous le tas de poussière, les monceaux de poussière de l'histoire et de la mémoire, sous toutes les manipulations et instrumentalisations de l'histoire et de la mémoire, sous toutes les instrumentalisations, manipulations de la politique et du pouvoir dont ils ont été l'objet, la création de nomenclatura écrasante, la création de pouvoir en leur nom, sur leur nom, par ceux qui s'approprient le monopole des autres. un livre formidable qui s'intitule « La vie à en mourir, lettres de fusillés » de 1941-1944. Des lettres choisies et présentées par Guy Cribaud-Piscot et préfacées par François Marcot nous donnent à redécouvrir l'élan, la fraîcheur, la force, la beauté absolue de ces hommes et de ces femmes aussi, français ou étrangers, qui avaient 20 ans et qui ont donné leur vie pour la France, contre le nazisme, contre le fascisme, contre l'occupation, et qui ont écrit, avant d'être fusillés, des lettres. Les soldats viennent me chercher, je hâte le pas, mon écriture est peut-être tremblée, mais c'est parce que j'ai un petit crayon. Ou bien l'autre qui dit « Ne baisse pas la tête parce que ton papa est fusillé ». Ou bien « Pour penser à moi, chantez ». Un autre « Il pleut sur la route ». « Ma chère femme, tu garderas mes lunettes en souvenir ». Ces gens s'appelaient Tony Bloncourt, René Bonpin, Honoré d'Étienne d'Orves, Léon Jost, Arthur Loucheux, Guy Moquet, Gabriel Péri. Et en lisant ces mots, je ne prononce pas celui qui est difficile à prononcer, Henri Bashzok. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui ont donné leur vie de cette façon. Fusillés, guillotinés pendant l'occupation, victimes des Allemands et de Vichy. Dans l'attente de leur mort, ils adressent à leur famille, à l'être aimé, une dernière lettre. Et c'est avec ces lettres qu'on va, ces lettres, oui, et ces êtres, qu'on va passer cette heure. Et puis aussi Odette. Odette qui a été la fiancée, on va dire, d'un homme dont on répète le nom sans savoir toujours qui il est, sur les lèvres du chauffeur de taxi à l'instant où je parle, dans la bouche de l'écolier, ou sur le papier du sans-papier, le nom de Guy Moquet.
L'actualité politique. À Paris, M. Albert Clément, rédacteur en chef du Cri du Peuple, est assassiné par des terroristes. À Vichy, M. Paul Marion, secrétaire d'État à l'information, dénonce les crimes anglais et russes. Bombardement de populations civiles, assassinat terroriste.
De telles mœurs ne relèvent plus des lois de la guerre, mais de la pratique de l'assassinat collectif et privé.
Nous assistons à une recrudescence de cette agitation des comités populaires. Dans telle grande usine, les communistes passent même à l'action terroriste, sans souci de la vie des ouvriers. Et une bombe était récemment déposée dans un atelier. La masse est dressée contre ces pratiques relevant non d'une doctrine politique mais de l'aventurisme dont ont toujours fait preuve malgré leurs protestations les dirigeants du Parti communiste auxquels on accola faussement le nom de Français.
Mais ne croyez-vous pas que la classe ouvrière sent instinctivement avec son bon sens et son expérience habituelle le guet-apens dans lequel on veut la faire tomber?
C'est exact, mais il faut que nous l'informions davantage encore. Déjà dans une série de réunions et de conférences, nous avons mis sous les yeux d'une foule attentive des documents irréfutables. Nous continuerons cette propagande jusqu'au moment où le prolétariat des usines fera justice lui-même de ceux qui veulent son malheur, sur lequel ils installeraient le régime du despotisme et de la tyrannie.
La nuit qui précéda sa mort fut la plus courte de sa vie. L'idée qu'il existait encore lui brûla le sang au poignet. Le poids de son corps l'écœurait. Sa force le faisait gémir. C'est tout au fond de cette horreur qu'il a commencé à sourire. Il n'avait pas un camarade, mais des millions et des millions pour le venger. Il le savait. Et le jour se leva pour lui.
Besançon, prison de la Butte, le 26 septembre 1943. Chers parents, ma lettre va vous causer une grande peine, mais je vous ai vu si plein de courage que je n'en doute pas. Vous voudrez bien encore le garder, ne serait-ce que par amour pour moi. Vous ne pouvez savoir ce que moralement j'ai souffert dans ma cellule, ce que j'ai souffert de ne plus vous voir, de ne plus sentir sur moi votre tendre sollicitude que de loin. Pendant ces 87 jours de cellule, Votre amour m'a manqué, plus que vos colis. Et souvent, je vous ai demandé de me pardonner le mal que je vous ai fait. Tout le mal que je vous ai fait. Vous ne pouvez douter de ce que je vous aime aujourd'hui. Car avant, je vous aimais par routine plutôt. Mais maintenant, je comprends tout ce que vous avez fait pour moi. Je crois être arrivé à l'amour filial véritable. Au vrai amour filial. Peut-être, après la guerre, un camarade parlera-t-il de moi. De cet amour que je lui ai communiqué. J'espère qu'il ne faillira point à cette mission, désormais sacrée. Je salue aussi en tombant mes camarades du lycée. À ce propos, elle même doit un paquet de cigarettes. Jacquin, mon livre sur les hommes préhistoriques. Rendez le comte de Monte Cristo à Émergeon, trois chemins français, derrière la gare. Je lègue ma petite bibliothèque à Pierre, mes livres de classe à mon cher papa, mes collections à ma chère maman, mais qu'elle se méfie de l'âge préhistorique et du fourreau d'épée gaulois. Je meurs pour ma patrie. Je veux une France libre et des Français heureux. Non pas une France orgueilleuse et première nation du monde, mais une France travailleuse, laborieuse et honnête. Que les Français soient heureux, voilà l'essentiel. Dans la vie, il faut savoir cueillir le bonheur. Pour moi, ne vous faites pas de soucis. Je garde mon courage et ma belle humeur. Les soldats viennent me chercher. Je hâte le pas. Mon écriture est peut-être tremblée, mais c'est parce que j'ai un petit crayon. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai la conscience tellement tranquille. Papa, je t'en supplie, prie, songe que si je meurs, c'est pour mon bien. Quelle mort sera plus honorable pour moi? Je meurs volontairement pour ma patrie. Nous nous retrouverons, tous les quatre, bientôt au ciel. Qu'est-ce que 100 ans? Maman, rappelle-toi, et ces vengeurs auront de nouveaux défenseurs, qui, après leur mort, auront des successeurs. Adieu. La mort m'appelle. Je ne veux ni bandeau, ni être attaché. Je vous embrasse tous. C'est dur quand même de mourir. Un condamné à mort de 16 ans. Henri Fertet. Excusez les fautes d'orthographe. Pas le temps de relire. ¡Gracias!
Et ça, c'est des photos. Ça, c'était une vue du camp de Chateaubriand.
Photos noir et blanc, là.
Et alors ça, c'est les deux gars qui ont été arrêtés avec moi. Ça, c'est les trois gars qui ont été arrêtés avec moi, qui ont été gardés comme otages à Chateaubriand. Et puis ces deux-là, c'était des petits pépères de Drancy qu'on a retrouvés là-bas. C'est toute une équipe de Drancy, ça, voyez-vous.
Et vous avez les photos de Guy Moquet ?
Oui, bon, j'en ai pas mal.
Montrez-moi.
On est ça. Là, c'était sa baraque, là.
C'est lui, là, Guy Moquet, là.
Là ?
Ouais. Oui. Le jeune gaillard, là, en pantalon et un pull. Hein.
Il y avait toujours ce pull vert gris.
C'est émouvant, là, ces photos, parce que on sent que chacun est arrivé là avec, évidemment, les habits qu'il avait.
C'était le début, tout à fait au début. Là c'est la belle-sœur à Maurice Torres, celle-ci, jeune Dédé. Vous voyez celui-là, Arvois. Il s'est évadé, celui-là. C'est un jeune qui participe avec nous. Ses parents tenaient c'était viticulteur à Reims. Et il était avec son frère, ils étaient arrêtés avec son frère. Et quand il s'est évadé, il a été enterré vivant. Ils lui ont tiré une balle et il était vivant, ils l'ont enterré. En 42. Alors, vous voyez, c'est tout un truc. Alors ça, c'était pour mes 20 ans, là, quand j'étais à Gaillon. Là.
En détention.
Oui. Alors ça, une camarade qui m'a fait un poème, vous voyez. 20 ans, roche du doux espoir. Pour toi, ils vont fleurir loin de tous, loin de tous les bonheurs que notre douce affection atténue un peu leur tristesse. Tes 20 ans, ma petite Odette, sont quand même prometteurs de grands espoirs. Toutes nous t'embrassons bien affectueusement. Evelyne, Margot, Jackie, Paulette, Janine, Dédé, Totote.
Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande à toi, en particulier petite maman, c'est d'être très courageuse. Je le suis et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser Jean. J'ai embrassé mes deux frères, Roger et René. Quant à mon véritable, je ne peux le faire, hélas. J'espère que toutes mes affaires te seront renvoyées. Elles pourront servir à Serge, qui, je l'escompte, sera fier de les porter un jour. À toi, petit papa, si je t'ai fait, ainsi qu'à ma petite maman, bien des peines, je te salue pour la dernière fois. Sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j'aime beaucoup, qu'il étudie bien pour être plus tard un homme. 17 ans et demi, ma vie a été courte, je n'ai aucun regret si ce n'est de vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintin, Michel. Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c'est d'être courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux pas en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes. Toi, maman, c'est Serge, papa, en vous embrassant de tout mon cœur d'enfant. Courage. Votre Guy qui vous aime. Guy.
C'est celle-là. J'ai conservé cette lettre 60 ans et c'est pourtant écrite sur un papier plure. Je l'avais gardée précieusement, vous voyez, je ne l'avais communiquée à personne, presque à personne. Parce que cette lettre m'avait été remise par un gendarme. Un gendarme, le jour où ils ont été fusillés. Ma petite Odette, je vais mourir avec mes 26 camarades. Nous sommes courageux. Ce que je regrette, c'est de n'avoir pas eu ce que tu m'as promis. Mille grosses caresses de ton camarade qui t'aime, Guy. Grosse bise à Marie et à toutes. Mon dernier salut à Roger, Rino, la famille et Jean Mercier. C'est très court, c'est-à-dire que c'est vraiment le dernier petit mot qui a été écrit sur un papier plure, qui a été écrit sur les genoux, m'a dit le gendarme. Il me l'a remis en me demandant de ne pas en parler, d'en parler à personne. Effectivement, aussitôt après, il y a eu une perquisition dans la baraque pour essayer de trouver ce qui avait été passé, etc. Et j'ai conservé cette lettre 60 ans. C'était un jeune gendarme qui étaient en sympathie un peu avec les jeunes. Il n'y en avait pas beaucoup de gendarmes qui étaient sympathiques, mais enfin, celui-là, il était particulièrement. Et il a été en sympathie avec les jeunes, c'est pourquoi, quand les Allemands sont arrivés, les gendarmes étaient autour d'eux, et c'est à ce moment-là que Guy, paraît-il, lui a donné le petit mot. J'avais 17 ans et demi à l'époque, oui. Et Guy avait pareil, 17 ans et demi. Nous avions le même âge. Et alors, on était séparés par une espèce de barrière en bois et un barbelé. On s'est retrouvés à cette barrière. On s'est connus que dans le camp, où était arrêté un groupe de politiques, les Jean-Pierre Timbaud, Paul Marc, etc., et tous ceux qui avaient été arrêtés des 40, vous voyez.
Comment vous en venez à faire de la résistance à 17 ans et demi, vous? C'est jeune, ça.
Ben, c'est-à-dire que moi, je suis issue d'un milieu où on était communiste chez nous, vous voyez, tout jeune. J'ai milité dans des organisations des pionniers. Vous savez, les jeunes, ils n'acceptent pas d'être bridés, d'être... là, bon, ben, on ne pouvait pas accepter une occupation, vous voyez, ce n'était pas possible. Vous savez, on pense actuellement, on a l'air de dire, mais on n'était pas des héros, parce que les jeunes de maintenant, ils participent aussi d'une certaine manière. Peut-être moins avancé parce que la situation n'est pas tout à fait pareille. Mais enfin, dès qu'il y a un mouvement, c'est surtout la jeunesse qu'on voit au premier rang.
Odette, elle s'appelle Odette Milès, vous avez compris, elle a été... l'amie, la petite amie, ou presque la petite amie de Guy Moquet. Et c'est très beau ce qu'elle nous dit là, ce qu'ils ont fait, eux, à 17 ans et demi, cette impatience de la jeunesse, ce refus radical jusqu'à donner sa vie s'il le faut. Et c'est, voilà ce qui s'entend, ce qui se donne à entendre et à revivre dans ces lettres de fusillés de 1941 et 1944, la vie à en mourir. Alors, eux, c'est 1941, c'est-à-dire le tout début. Guy Moquet était né en 1924. Il était militant de la jeunesse communiste. Son père lui-même avait été arrêté. Et donc, il milite. Il milite à fabriquer des tracts clandestins, coller des papillons contre l'occupation. Et ça, dès le début, dès 1940. Il est arrêté en 40 à Paris, à la gare de l'Est. Et puis, il se retrouvera à Châteaubriant. Il sera désigné comme otage le 22 octobre au matin. Et il sera fusillé le même jour à la carrière de la Sablière avec 26 autres otages, dont Odette Milès vient de nous dire Jean-Pierre Timbaud. Voilà ce que sont ces mots, ces rues, ces métros, ces avenues, ces places, des hommes, de jeunes hommes qui ne supportaient pas simplement et qui ont résisté.
Un groupe de gendarmes qui ferment toutes les baraques, tous les issues, fenêtres, tout, etc., volets et tout. Ils nous enferment dans les baraques, vous voyez, ils ferment les portes et tout. Alors, en haut, il y avait une lucarne de notre baraque. Alors, cette camarade, on lui a fait la courte échelle, elle a grimpé. Et alors, c'est là qu'elle nous dit, oh, ben, il y a les Allemands qui se dirigent vers la baraque des otages. Et alors, elle dit, oh, c'est curieux, elle dit, je les vois descendre. Elle dit, je vois Tintin. Alors, Tintin, c'était Timbaud, il était avec...
Jean-Pierre Timbaud, oui.
Il avait toujours une... côte jaune, vous savez, jaune, un peu côte d'ouvrier, vous voyez, avec sa casquette et sa pipe. Elle dit, je vois Tintin qui descend. Et alors, quand il est passé devant notre baraque, automatiquement, il a fait un signe. La camarade nous disait, oh, et puis je vois pas mal qui descendent. Mais elle pouvait pas nous dire combien, elle était vraiment très émue. Ils en ont pris tant dans telle baraque, tant là, pour compléter, pour en faire 27. Et la dernière baraque où ils sont passés, c'est la baraque de Guy, vous voyez. Et alors, quand on a entendu qu'ils partaient, qui chantait la Marseillaise, on a accompagné, on est tous sortis, je peux même dire que les femmes, elles sont sorties dans les premières, vous voyez, on a bousculé les gendarmes et on a chanté la Marseillaise, enfin, on a chanté avec eux, mais une Marseillaise, vous savez, comment je vous dirais, on ne peut pas dire qu'on l'a chantée, on a hurlé la Marseillaise. Et quand le camion s'est ébranlé, je ne savais pas qu'il y avait Guy Moquet, vous voyez, je ne savais pas. Alors, il n'y a qu'après, c'était quelque chose d'épouvantable, hein. Il y avait Guy, mais il y avait aussi tout ce groupe. C'était quelque chose de terrible. C'est bête, hein, vous voyez, je ne peux pas écouter la Marseillaise, même maintenant. Même maintenant, j'expliquais aux jeunes l'autre fois, je dis, quand j'entends la Marseillaise, c'est eux. c'est eux qui partent. Et ça me fait penser qu'à moi, mes six camarades qui restent au Rio sont pareils. Dès qu'on entend le Marseillais, c'est le départ des gars. Et on les revoit. Vous voyez, quand on est à Châteaubriand, qu'on voit ses portraits, on revoit celui-là, mal habillé, le docteur Ténine, qui était toujours avec des vieux fringues, c'est le moment de dire, vieux costume de militaire. On voit un tel avec son petit béret, on voit un tel. Vous voyez, on les revoit pas dans la vie comme on nous les a présentés, on les revoit tels qu'ils étaient dans le camp, vous voyez. C'est bête, mon frère. C'est quelque chose qui m'a marqué très très profondément, vous voyez ça. Alors je suis restée très longtemps, pendant tout le reste qui m'en restait, à penser à mes camarades, à tous mes camarades, tous. Parce que je les aimais beaucoup, vous voyez, c'était vraiment un sentiment que si, comme des frères, comme si j'en avais, on perd un lien, quelqu'un qui vous est très cher. Et, voilà.
Ce cœur qui haïssait la guerre, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures, du jour et de la nuit. Voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine. Et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent. Et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne comme le son d'une cloche appelant à l'émeute et au combat. Écoutez, je l'entends qui me revient, renvoyé par les échos. Mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, de millions d'autres cœurs battant comme le mien à travers la France. Ils battent au rythme pour la même besogne, tous ces cœurs. Leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises. Et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un même mot d'ordre, révolte contre Hitler et mort à ses partisans. Pourtant, ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons. Mais un seul mot, liberté, a suffi à réveiller les vieilles colères. Et des millions de Français se préparent dans l'ombre à la besogne que l'aube proche leur imposera. Car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté au rythme même des saisons et des marées, du jour et de la nuit. Robert Desnos.
Ce que je regrette, dit-il dans la lettre, là,
oui,
est de ne pas avoir eu ce que tu m'as promis. Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Bah, écoutez, voilà, exactement, c'est pas ce qu'on croit, ce qu'on peut croire. Vous voyez, Guy était très amoureux de moi. Moi aussi d'ailleurs, un peu, hein, parce que j'osais pas trop lui dire, mais enfin, c'était quand même un peu...
Il était bel homme?
Il était très beau, puis moi j'étais pas trop moche. Alors évidemment, on a eu un sentiment peut-être l'un pour l'autre, vous voyez, mais un sentiment qui était tout platonique, vous voyez. C'était simplement des discussions. On parlait même pas d'amour au travers de la barrière parce qu'il y avait tout le monde, hein, d'abord, vous voyez. Mais Guy, on parlait à ses camarades, vous voyez, autour de lui, tout ça. Bon, alors j'avais appris un peu. Et alors, ce que tu m'as promis. Alors un jour, Guy, vous voyez, c'est tout bête, il me dit, est-ce que tu serais d'accord de me faire un patin? Et moi, qui ne savais pas du tout ce que ça pouvait être qu'un patin, je lui dis, si tu veux, et c'est ça. Oui. Alors évidemment, ça me gêne un peu maintenant, vous voyez, de ces choses-là, parce que ça a l'air tout bébête, mais enfin, c'était vraiment un amour très très platonique, voyez-vous. C'était mon premier amour, si vous voulez, en quelque sorte, mon premier amour de jeunesse, quoi. Voilà. Au travers une barrière et des barbelés. Voilà, voilà, c'est toute l'histoire de Guy Mocquet, mon petit mot. Voilà.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière. Aux agonisants, 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents.
Merci à tous, c'était Catherine Ribeiro. Vous allez sans doute nous demander quelle est l'interprète, c'était Catherine Ribeiro. Merci à Odette Niles, merci à Emmanuel Terret, Pablo, Madame Fleuret, Madame Sergent du SNES. Il y avait au début de cette heure un reportage de Pascal Pascariello. Et je vous rappelle le titre de l'ouvrage dont on a parlé, La vie à en mourir, lettre de fusillé 1941-1944, sous la direction de Guy Crivopisco, avec une préface de François Marco aux éditions Taillandier. C'était en 2003, d'ailleurs les éléments de cette émission datent de septembre 2003. Et puis nous rappelons que cet après-midi à 17h30, un rassemblement est organisé en soutien à Florimond Guimard, deux lieux possibles, devant le palais de justice à Paris ou devant l'hôtel de ville si la maréchaussée bloque le passage. Voilà, vous savez tout, toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, le site non officiel de là-bas si j'y suis. La technique aujourd'hui, Farid Chibani et Julien Chabassus et Yann Chouquet et Koy Nguyen qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry qui s'occupe également du répondeur de là-bas si j'y suis, dont le numéro est le 01. 56 40 37 37 01 56 40 37 37. Il y a aussi un mail à cette émission, daniel.mermet@radiofrance.com. Il y a toujours les repères de là-bas si j'y suis qui marchent très bien. Je rappelle, si vous êtes nouveau, AMG, auditeurs modestes et géniaux de là-bas si j'y suis, comment fonctionnent les repères? Eh bien, dans votre village, dans votre quartier, vous trouvez un bistrot sympa et vous organisez avec les gens du coin une réunion entre auditeurs, comme ça, tout à fait informel. Et petit à petit, ça dure depuis 2 ans, il y en a plus d'une soixantaine en France, comme ça. Et ça marche, ça prend des proportions des fois assez énormes, des fois ça reste quelques copains, et puis voilà, ça se développe, et il suffit de nous appeler, de nous le faire savoir, et on donne suite. Il est 15h59 minutes et 26 secondes, c'est l'heure de la pub.